Alors après avoir vu dans les grandes composantes naturelles la lithosphère, on va donc maintenant attaquer l'atmosphère, qui est la deuxième grande sphère que l'on peut étudier dans les différentes composantes. En termes d'enjeux, cette atmosphère, elle est très importante, évidemment, dans la mesure où on va voir que elle est très structurante pour les conditions de vie. On peut partir du principe que la lithosphère, elle est entourée d'une couche gazeuse, et que cette couche gazeuse, c'est elle qui va dicter les conditions de la vie. Évidemment, sur les autres planètes, il y a aussi une atmosphère hein, qui est présente, mais comme c'est pas la même, comme elle n'a pas les mêmes caractéristiques, les conditions de vie sont pas les mêmes. Alors, il y a la distance au Soleil aussi qui joue, mais on voit par exemple ici sur la planète Vénus, on a une température qui est plus forte, qui va être liée à la distance au Soleil, mais qui va être aussi liée aux conditions atmosphériques. On va y revenir. Non seulement cette atmosphère elle crée les possibilités de la vie, mais aussi elle va influencer les conditions dans lesquelles cette vie va se dérouler. C'est-à-dire que sur la Terre, on peut vivre à peu près partout. Simplement, si vous êtes au pôle Nord ou si vous êtes dans une zone tropicale, dans une jungle, vous n'allez pas avoir les mêmes conditions de vie, parce que les conditions atmosphériques ne sont pas les mêmes. Et puis enfin, cette atmosphère, la dynamique de cette atmosphère, elle va être à l'origine d'un certain nombre de risques. Donc on peut penser aux ouragans, aux tornades, comme l'illustration le montre ici, qui sont, elles, potentiellement dangereuses pour les sociétés. Hein, et donc c'est un risque à prendre en compte pour les activités économiques et sociales. Quelques définitions en introduction de ce chapitre. L'atmosphère, c'est simplement la couche gazeuse hein, qui entoure le globe terrestre. Elle est composée de l'air, qui est en fait un fluide gazeux. Composé, on verra, composé, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs éléments dans cet air qui constituent l'atmosphère terrestre. Ah, donc l'air, c'est le fluide gazeux qui constitue l'atmosphère terrestre. Le climat, c'est l'ensemble des conditions atmosphériques, donc c'est-à-dire que c'est l'état de cette atmosphère qui est propre à une région donnée ou à une partie du globe ou à un lieu donné. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les conditions climatiques, ça va être les conditions atmosphériques qui vont contrôler les conditions climatiques à un endroit donné. Par exemple, en Europe, l'été, les conditions climatiques, elles sont liées à la présence ou non de l'anticyclone des Açores. L'anticyclone des Açores, c'est une certaine température, c'est un certain état de l'atmosphère qui va se traduire par un certain type de climat. Quand cette atmosphère n'est pas dans ces conditions-là, que l'anticyclone des Açores n'est pas là, bah on a un été avec un mauvais temps. L'étude de l'atmosphère, il y a beaucoup de disciplines qui s'intéressent à cette étude de l'atmosphère. Il va y avoir des gens qui vont travailler en physique de l'atmosphère, par exemple, ils vont regarder quelles sont les particules qui sont présentes, à quelle vitesse elles se déplacent, comment elles sont composées, etc. En géographie, les gens qui s'intéressent à l'atmosphère, ils vont travailler avec un angle qui est celui de la climatologie et non pas de la météorologie, c'est un petit peu différent. La météorologie, elle va s'intéresser à des échelles de temps beaucoup plus courtes. Elle va s'intéresser au temps qu'il fait aujourd'hui, demain ou la semaine prochaine, par exemple. La climatologie, elle s'intéresse à l'étude des climats, c'est-à-dire aux circonstances atmosphériques et météorologiques dans l'espace et dans le temps, mais à des échelles plus importantes. C'est-à-dire qu'elle ne va pas juste regarder la température qu'il fait un jour donné ou pendant une semaine, elle ne va pas essayer de prédire le temps qu'il va faire demain. Elle va plutôt regarder quelles sont les conditions climatiques qu'il y a en Bretagne ou en Île-de-France ou dans le Massif central, sur un mois, sur une année, sur 30 ans, sur 50 ans. Alors cette étude climatique, elle peut se faire à plusieurs échelles, elle peut se faire à l'échelle du globe. Prenons un exemple ici, si on fait un transect depuis le pôle Nord jusqu'à la mer Caspienne dans le continent eurasiatique. Donc qu'est-ce qu'on va observer? On peut observer depuis le pôle Nord jusqu'à la mer Caspienne l'évolution des conditions de l'atmosphère. En termes de température, donc c'est la courbe en rouge, ou en termes de précipitation, c'est la courbe en bleu. Et qu'est-ce qu'on observe? Depuis le nord à gauche jusqu'au sud à droite du graphique, c'est qu'on va observer une baisse des précipitations, des précipitations, c'est-à-dire qu'il pleut plus au nord qu'au sud, et puis une augmentation des températures. On verra ça par la suite, c'est tout à fait normal, tout à fait logique. Et qu'est-ce que ça va avoir comme influence, ça? Ça va avoir comme influence qu'évidemment, au nord, on va avoir un climat, des conditions atmosphériques, un climat particulier, beaucoup de précipitations et du froid, c'est-à-dire beaucoup de neige en gros. Au sud, on va avoir d'autres conditions atmosphériques, une température plus importante, moins d'eau, donc des conditions semi-arides évidemment. Ça va se traduire, on le voit en dessous, par des formes de végétation différentes. On va avoir une forêt boréale au nord, et puis on va avoir des steppes arides au sud. Donc, vous voyez que ça c'est important. On peut observer également cette évolution ou cette géographie des conditions atmosphériques, donc des climats à l'échelle plus régionale, Si on prend la France, tout simplement, on peut observer sur cette carte que, bah, en fonction de là où vous êtes en France, bah, vous allez avoir des conditions atmosphériques particulières, plus ou moins de précipitations. Ici, c'est la carte des précipitations, on aurait pu prendre les températures. Qu'est-ce qu'on observe ici? Bah, qu'il y a des régions qui reçoivent des précipitations beaucoup plus importantes que d'autres. Plus de 2000 mm d'eau sur les massifs montagneux comme les Pyrénées, le Massif central ou les Alpes, et moins de 600 mm d'eau dans le centre du bassin parisien, par exemple. Donc ça, évidemment, ça va avoir des influences très importantes, hein, sur l'agriculture, sur plein de choses. Donc l'étude de cette atmosphère, on va le faire en deux temps. Premier temps, composition et structure de l'atmosphère, comme on a fait pour la lithosphère. Et puis dans un deuxième temps, on verra comment elle est dynamique, cette atmosphère. Et à chaque fois, on essaiera de voir les conséquences que ça peut avoir pour les sociétés. Composition de l'atmosphère, enfin composition et structure, on va d'abord voir la composition de l'atmosphère. Je vous ai dit tout à l'heure que l'atmosphère était composée d'air. L'air, c'est un gaz composé, donc il y a plusieurs éléments dans l'air. Nous, on pense tout de suite à l'oxygène parce que c'est vital pour nous. Mais en fait, l'élément le plus important, c'est l'azote. 80% presque, 70% de l'air est composé d'azote. Et le deuxième composant le plus important, c'est l'oxygène. Donc en fait, l'air que l'on respire, il est composé à 80% d'oxygène, d'azote et à 20% d'oxygène à peu près. Donc l'essentiel, c'est de l'azote et de l'oxygène. On va quand même avoir d'autres éléments, de l'argon, du CO2, du néon, de l'hélium, du krypton, etc. Mais vous voyez, dans des proportions qui sont beaucoup plus faibles. Alors, deux remarques sur la composition de cet air. La première chose, c'est que cette atmosphère, il est propre à la Terre. Sur les autres planètes, la composition de l'atmosphère est différente. Si vous regardez ici, par exemple, Vénus ou Mars, on a des atmosphères totalement différentes. Il n'y a que 1 à 3% d'azote, il y a 0% d'oxygène, donc vie impossible pour nous, et il y a 95 à 97% de CO2. Alors, le CO2, c'est un gaz qui est très toxique pour nous. Ça veut dire qu'on ne peut pas respirer dans ces atmosphères-là. Deuxième remarque sur la composition de cette atmosphère, on peut avoir des particules ou des éléments qui sont très peu présents en quantité, comme l'ozone. Vous voyez qu'on est à 0,4 10 puissance moins 6, hein, en pourcentage. C'est très faible. Mais l'ozone a quand même un rôle très important. Cette ozone, elle est distribuée à un endroit de l'atmosphère, on verra par la suite où. Et elle va, ces particules d'ozone, elles vont jouer un rôle de filtre. Elles vont filtrer les rayons ultraviolets qui sont produits par le soleil. Donc c'est une sorte de protection, comme de la crème solaire, qui nous protège de certains rayons du soleil. Ces rayons étant très dangereux pour nous, puisqu'ils vont brûler la peau, provoquer des cancers et des choses comme ça. Donc vous voyez, on peut avoir une particule qui est très peu présente en quantité, mais qui a un rôle très important, puisqu'elle nous protège des rayons du soleil. Et sans cette ozone, les conditions de la vie seraient beaucoup plus difficiles, puisqu'on grillerait en quelque sorte. En termes de structure, donc là, on a vu la composition, maintenant voyons la structure. La structure de l'atmosphère, on peut commencer par la décrire en fonction de deux paramètres. La pression, c'est le poids de l'air qui s'exerce sur nous. On voit que cette pression, elle diminue de la surface de la Terre vers l'extérieur, vers le haut de l'atmosphère, de manière assez régulière. Pour la température, c'est un petit peu plus compliqué. Voici le schéma de l'évolution de la température entre la surface du sol, où on estime qu'il fait à peu près 15 degrés en moyenne à la surface de la Terre, jusqu'à plus de 120 km d'altitude. Et cette température, elle va nous permettre de distinguer quatre grandes zones, quatre grandes couches dans l'atmosphère. Et finalement, il n'y en a qu'une qui va nous concerner très directement. Première couche, c'est ce que l'on appelle la troposphère, entre 0 et 10 km d'altitude. Cette troposphère, elle est importante parce que c'est la couche la plus dynamique de l'atmosphère. Et c'est dans cette couche que se produisent les phénomènes météorologiques, les tempêtes, les ouragans, les nuages, les précipitations, tout ça. Donc celle qui nous concerne pour l'étude des climats, c'est celle qui va nous concerner en premier lieu. Elle représente 80% de la masse de l'atmosphère, c'est-à-dire que l'essentiel de l'atmosphère est présent dans cette couche-là. Et dans cette couche-là, on observe une diminution progressive de la température d'environ 0,5, 0,6, 0,7 degrés par 100 mètres. C'est-à-dire que quand on monte d'un kilomètre, on perd 6 à 7 degrés. C'est pour ça que quand on monte en montagne, il fait de plus en plus froid. Donc là, on a une diminution progressive de la température jusqu'à atteindre une température de moins 30, moins 40, moins 60 degrés quand on est à 10 km d'altitude. La limite de cette troposphère, je vous ai dit, c'est 10 km, mais c'est une moyenne en fait. Elle est assez variable. Elle est environ à 8 km au pôle, alors qu'elle va être un peu plus haute, à 16 km à peu près au niveau de l'équateur. C'est vraiment la couche la plus importante en termes des phénomènes climatiques et météorologiques, puisque c'est dans celle-là que se produisent ces phénomènes. Donc c'est celle-là qu'on va étudier de façon préférentielle, mais elle est quand même reliée aux autres, hein. Donc quelqu'un qui s'intéresse à l'atmosphère, il est quand même obligé de prendre en compte les autres couches que je vous cite. Ensuite, On avait dit troposphère, la deuxième c'est la stratosphère, entre 10 et 50 km. Là, il y a quasiment tout le reste de la masse de l'atmosphère, c'est 20%. Et là, on observe que la température, elle réaugmente. Pourquoi? Parce qu'en fait, justement, dans la partie supérieure de la stratosphère, on a de l'ozone. Cette ozone absorbe les rayonnements ultraviolets dont je vous parlais tout à l'heure. Et le fait d'absorber ces rayonnements, ça réchauffe l'atmosphère. Donc la température remonte en haut de l'atmosphère, en haut de la stratosphère. Ensuite, on a la mésosphère, entre 50 et 80 km. Et puis au-delà de 50 km, on a ce qu'on appelle la thermosphère, où là, la température augmente sous l'effet du rayonnement solaire. Et puis la densité des particules devient très faible. Progressivement, on passe dans l'espace, hein, où la densité de particules est quasiment nulle. Alors, elle n'est pas nulle, il y a toujours des petites particules, mais la densité est très très faible. On a vu la composition et la structure de l'atmosphère. On va maintenant voir plus en détail, notamment dans la troposphère, quelle est la dynamique de cette couche. Et puis on va voir donc en un premier point comment se déplace l'air et puis quelles conséquences ça a pour les sociétés. Premier point, les mouvements des masses d'air, donc au sein de la troposphère. Pour comprendre les mouvements des masses d'air, en fait, il faut réfléchir en termes de bilan énergétique. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir en termes de chaleur. Si on regarde la carte du monde, du globe, qui vous est présentée ici, c'est la carte avec la quantité de rayonnement solaire absorbé par la Terre, c'est-à-dire en gros la quantité de chaleur que la Terre va prendre au Soleil. Quand vous vous mettez au Soleil, ça vous chauffe. Quand vous vous mettez à l'ombre, bah, ça vous refroidit. Donc c'est la même chose pour la Terre, elle va emmagasiner de la chaleur liée au rayonnement du Soleil. Donc là, c'est ce qui est représenté sur cette carte. Qu'est-ce qu'on observe? C'est assez simple. Les températures, la quantité d'énergie absorbée la plus importante, elle est située au niveau de l'équateur et des tropiques. C'est les couleurs jaune et rouge. Plus on s'éloigne vers les pôles, plus la quantité de chaleur absorbée par la Terre diminue. C'est normal, hein, au niveau de l'équateur et des tropiques, le rayonnement solaire, il arrive de manière directe sur la Terre, donc c'est là que ça chauffe le mieux. Quand on est au pôle, le rayonnement solaire, il arrive de biais, donc ça chauffe moins bien, tout simplement. Alors pourquoi ça c'est important pour les masses d'air? Eh bien parce qu'en fait, quand on a un endroit où il fait chaud, quand l'air est chauffé, qu'est-ce qui se passe? Quand l'air est chauffé, il monte, hein. Quand vous chauffez de l'air, il a tendance à monter dans une pièce. Quand vous allumez le radiateur, l'air chaud, vous allez le retrouver plutôt en haut de la pièce. Si vous levez la main, et vous sentez que l'air il est plus chaud au niveau du plafond qu'au ras du sol. Donc l'air chaud monte. Donc ça, c'est au niveau des tropiques, par exemple. Entre les tropiques, l'air est chauffé. Il monte en altitude. Et quand cette air chaud monte en altitude, qu'est-ce qui se passe? Ça crée un appel d'air, un vide, qui va attirer de l'air qui, lui, est de l'air plutôt froid, parce que l'air froid a tendance à rester proche du sol, parce qu'il est plus dense, plus lourd. Donc l'air chaud monte, ça crée un vide, l'air froid arrive, il le remplace, il est chauffé, il monte, et ensuite cet air chaud, il va tourner, et on va avoir un cycle qui va se mettre en place de cette façon-là. Donc si on regarde à l'échelle du globe, en gros, il fait chaud au niveau des tropiques, froid au niveau des pôles, donc qu'est-ce qu'on a? On a de l'air chaud au niveau des tropiques qui monte. Ça appelle l'air froid qui arrive des pôles. L'air chaud ensuite retourne au niveau des pôles. Il refroidit, il redescend. Il vient remplacer l'air chaud au niveau des tropiques. Il est réchauffé, il remonte. Et on a un cycle qui se met en place. Comme ça, on a des boucles avec l'air, le déplacement des masses d'air qui se fait comme ça. Donc on aurait un déplacement des masses d'air depuis les pôles en direction de l'équateur au niveau de la couche la plus basse de l'atmosphère. Alors évidemment, dans la réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Quand on regarde cette carte avec les différentes flèches qui indiquent les masses d'air et les mouvements des masses d'air, etc., le modèle est beaucoup plus compliqué. Qu'est-ce qui vient compliquer ce modèle? Il y a plusieurs facteurs. Un, la Terre tourne, et du coup, il y a un effet d'entraînement pour les masses d'air. Hein, c'est comme quand vous êtes sur un manège. Si vous sortez du manège, vous n'allez pas sortir en ligne droite, vous allez être propulsé avec un angle. Ça, c'est un effet lié à la rotation de la Terre. Et puis, il y a ensuite un autre effet qui est que la Terre, elle n'est pas lisse comme on l'a vu quand on a étudié la lithosphère. Il y a des océans, il y a aussi des masses continentales qui vont créer de la rugosité. Hein, quand une masse d'air arrive sur l'Himalaya, par exemple, eh ben, elle ne peut pas passer. Donc, elle est obligée de la contourner. Donc, on a un modèle qui est assez simple, hein, une circulation d'air qui se fait des pôles depuis depuis les pôles jusqu'à l'équateur, et puis qui ensuite forme une boucle. Et en fait, tout ce modèle-là est perturbé par la rotation de la Terre, par les masses continentales, par le relief, etc. Et le résultat, c'est qu'on a un modèle en fait un peu plus compliqué que ça, qui est représenté ici sur cette carte avec des flèches qui vont un peu dans tous les sens. Mais bon, ça s'explique très bien par les processus que l'on connaît. Conséquences pour les sociétés. Première conséquence à l'échelle globale, on a une distribution assez zonale des climats. Assez zonale, c'est-à-dire qu'en fait, on a des grandes zones, des grandes bandes de climat en fonction du rayonnement reçu et de la dynamique des masses d'air. En gros, on a un climat équatorial au niveau de l'équateur, un climat tropical entre les tropiques. Ensuite, au niveau des tropiques, on a un climat qui va être un climat plutôt désertique. Ensuite, on va avoir des climats tempérés, puis ensuite des climats polaires au niveau des pôles. Alors évidemment, encore une fois, les zones, elles ne sont pas aussi nettes que des bandes qui seraient très régulières. Il y a des discontinuités que l'on peut observer. Par exemple, si on observe au niveau de l'Amérique du Sud, on voit bien qu'il y a un climat tropical au niveau de l'équateur pour la partie du bassin amazonien. Mais quand on regarde sur le versant, sur la côte ouest, on voit bien que là, on a un climat, là, donc c'est figuré en jaune sur la carte, on a un climat plutôt désertique. Et puis entre les deux, on a un climat montagnard, parce que là, il y a un relief, la cordillère des Andes, qui modifie les conditions, hein, à l'échelle régionale des conditions climatiques. Donc on a un modèle globalement qui est zonal, avec des modifications liées à la présence de relief ou de choses comme ça. Il y a aussi une variation à l'échelle régionale. Si je reviens sur la carte à l'échelle mondiale, la France, il y aurait deux types de climats, un climat méditerranéen en marron et un domaine océanique en vert. En fait, quand on regarde en détail, on a effectivement bien un climat méditerranéen, mais on a aussi du climat montagnard. Alors évidemment, ce n'est pas la cordillère des Andes ou l'Himalaya, mais c'est quand même des montagnes avec des conditions climatiques particulières. On a un climat océanique sur le versant ouest de la France, donc tout le littoral, de la côte sud-ouest jusqu'aux Flandres. Et puis ensuite, quand on rentre un petit peu, on a ce qu'on appelle un climat océanique de transition. Parce qu'en fait, l'humidité des masses d'air, il reste en partie sur la partie ouest. Quand il pleut sur la façade ouest, une partie de l'eau ne va pas aller à l'intérieur. Donc on va avoir une influence de l'océan qui va être atténuée. Donc vous voyez, on peut étudier cette variabilité des conditions atmosphériques à des échelles plus fines que l'échelle globale. Et tout ça va avoir des conséquences directes sur la vie des sociétés. Évidemment, on imagine bien qu'en termes de tourisme ou qu'en termes d'agriculture, les différences de climat, elles sont très sensibles et elles sont très importantes, hein, et elles structurent très fortement les activités socio-économiques. Exemple de conséquences que ça peut avoir en termes de ressources, par exemple, sur le potentiel éolien. Si vous regardez la carte que je vous présente ici, on a le potentiel éolien en France, qui est lié à quoi? Qui est lié notamment à la vitesse du vent. Pas seulement à la vitesse du vent, mais entre autres à la vitesse du vent. Et on voit bien qu'il y a des régions en France qui ont un potentiel plus important. Ça va être des régions où le vent va être fort. Notamment, on a la façade nord-ouest qui reçoit des grands flux de l'océan Atlantique, avec là des vents qui sont assez nets, assez marqués, assez forts. On a aussi le couloir rhodanien, hein, qui présente un potentiel d'éolien assez important. Donc vous voyez bien que là, ce potentiel, il n'est pas équiréparti sur l'ensemble du territoire français. Il dépend des conditions atmosphériques régionales, avec la mobilité des masses d'air, où est-ce qu'il y a du vent, où est-ce qu'il y en a moins, etc. Et avec ça, on va pouvoir ensuite en conclure que à tel endroit, c'est peut-être plus intéressant d'installer des éoliens qu'à d'autres endroits. Évidemment, dernière conséquence pour les sociétés, il y a également des phénomènes météorologiques, climatologiques qui sont remarquables. Là, je vous ai parlé de conditions moyennes qui influencent la vie de tous les jours, mais il y a aussi des événements extrêmes. Prenons l'exemple d'un ouragan, l'ouragan Katrina qui s'est produit en 2005 dans le sud-est des États-Unis. Donc là, on a un phénomène qui est lié à la mobilité des masses d'air qui vont générer un ouragan, qui est un phénomène météorologique très particulier, avec des vitesses de vent très importantes, plus de 225 km/h quand cet ouragan est arrivé sur le littoral de la Louisiane. Alors, il y a quatre États qui ont été touchés pour cet ouragan, à proprement parler, hein, la Louisiane, le Mississippi, l'Alabama et la Floride. Et puis surtout, ça va avoir des conséquences directes sur les sociétés, hein. Là, on a un ouragan très important qui a amené une masse d'air chaude et humide. Donc, c'est-à-dire des quantités d'eau sur le continent très importantes. Quand cette eau a été arrivée sur le continent, eh bien, ça a provoqué des pluies très importantes. Alors, ce n'est pas ces pluies qui ont inondé la Nouvelle-Orléans, mais en fait, ces pluies, elles ont gonflé l'eau des rivières. Le niveau d'eau a monté dans les rivières. Et les digues qui protégeaient la Nouvelle-Orléans ont lâché, ce qui a inondé 80% de la ville de la Nouvelle-Orléans. Donc là, on a un phénomène lié à des masses d'air qui, in fine, se traduit par des dommages très important. Et 80% d'une ville inondée, d'une grande ville, c'est très important. On a aussi pu constater que cette ville, elle n'était pas, ça n'avait pas inondé n'importe où, ça avait inondé évidemment dans les lieux où la topographie est la plus basse. On s'est aussi rendu compte, d'un point de vue plus social cette fois-ci, que les populations touchées étaient majoritairement les populations pauvres. On le sait, ça maintenant, ça a été montré dans plein d'études, que généralement, les gens, les quartiers qui sont habités par des catégories socioprofessionnelles plus défavorisées sont souvent soumises à plus de risques. Hein, elles ont une exposition au risque qui est plus importante que les populations qui sont plus favorisées. Ça a également eu des conséquences économiques très importantes. Hein. On a dû interrompre la production de gaz et de pétrole dans le golfe du Mexique. Or, la production de gaz et de pétrole dans le golfe du Mexique, c'est 30% de la production mondiale et 10% des capacités de raffinage mondiales. Donc, vous voyez, c'est un impact mondial. Cet ouragan qui est régional, il va avoir un impact mondial. On estime que les dégâts causés par cet ouragan, seulement celui-là, c'est à peu près 80 milliards de dollars. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. On a donc fini sur cette composante de l'atmosphère. Et on va maintenant passer à la troisième composante qui est l'hydrosphère.